c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir encore. J'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous m'acceptez dans cette tenue? Ça va? On fait votre bulletin secret pour savoir les pensées secrètes des cœurs ou quoi? Vous êtes d'accord? On vient de chanter un petit cœur formidable. Je prie pour toi, tu pries pour moi. J'ai été l'objet de beaucoup de prières ces temps-ci, puisque j'étais tombé gravement malade le 31 janvier. Le SAMU m'emportait. Un mois plus tard, une deuxième fois, il m'emportait. Une semaine après, encore une fois, j'étais aux urgences. Vous n'avez qu'à voir. Alors, je ne savais pas si j'allais pouvoir récupérer assez de force, parce que j'avais perdu beaucoup de sang. Il a fallu qu'on me fasse deux poches de transfusion de sang, vous voyez. Et j'avais de la peine à remonter, mais enfin, j'ai remonté. Et c'est une grâce de Dieu. Alors, je suis arrivé à Brest il y a 15 jours, dimanche, ça faisait deux semaines. Vous voyez, j'étais à Brest pour une série de réunions qui avaient lieu le vendredi, le samedi et le dimanche. Et l'après-midi, le dimanche, justement, on avait parlé du salut des enfants. C'est ce qui avait été demandé. Les enfants étaient là et aux questions, ils posaient des questions, c'était magnifique. Et j'avais repéré dans toute la bande un petit gars qui se tenait bien droit avec des yeux magnifiques, qui regardait en face. Il avait, je ne sais pas, 7, 8 ans, je ne pense pas qu'il en avait 9. Et il posait des questions extraordinaires. Le dimanche après-midi, à la fin de la réunion, il y a eu des questions, je crois qu'il en a posé une. Et puis à la fin de la réunion, quand tous les gens ont fait les formules d'office, j'ai demandé à Daniel Baudelec, le pasteur, j'ai dit donc, Daniel, j'aimerais que ce petit bonhomme l'a prié pour moi. Eh bien oui. Alors je lui ai appelé, Yanis, viens, tu vas prier pour moi. Alors il était devant là, je lui ai pris les mains, il m'a pris mes mains, et il a fait la prière. Il a fait une prière extraordinaire. Et il a commencé comme ça. Sois béni, Seigneur, parce que tu as amené au milieu de nous le papy pasteur. Oui, j'étais pour lui le papy pasteur. Voilà. Et je suis le papy pour une ribambelle de gens. Mais ne m'appelez jamais papy devant ma petite fille, Nadège, parce qu'elle vous dira non, c'est le mien. Ah, c'est comme ça. Voilà. Alors, rassurez-vous les gentils. Alors, il a prié pour moi, je te bénis, Seigneur, d'avoir amené le papy pasteur. Tu vas le bénir. Tu vas faire qu'il revienne un jour nous voir. Et puis, il a surtout prié, Seigneur, tu vas le bénir pendant ce voyage. Tu vois, il est fatigué, tu vas le garder, tu vas le bénir pour qu'il arrive très bien chez lui. Voilà, alors tout le monde souriait peut-être, hein, mais le petit garçon est prié avec cette fraîcheur, on voyait que ça venait du fond de son cœur. Et tout le monde a dit amen, je lui ai fait un gros bisou, vous comprenez bien qu'il fallait le faire. Et je suis parti. Et le lendemain matin, quand je suis arrivé à l'aéroport, arrivé à l'hôtesse, je constate avec étonnement qu'à Orly, je n'avais que 35 minutes pour changer d'avion. Ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion doivent comprendre ce que je veux dire. À Orly, c'est très long. J'ai dit, mais madame, jamais je vais pouvoir changer d'avion. Elle m'a dit, mais vous auriez dû me demander que vous soyez aidée. Je ne savais pas, j'ignorais que ça existait. Mais attendez, donnez-moi votre numéro. Elle a pris le contrat, elle a tapé. Elle est partie à l'avion. Arrivée à l'avion, des gens s'occupaient de moi. Et quand arrivé vers Orly, une hôtesse qui était au fond, elle vient me dire, c'est vous qui avez demandé de l'aide? Oui. Alors, vous asseyez devant là, et vous attendez. Alors, je me suis assis. Et puis, il est arrivé un jeune homme, avec son blouson jaune, son truc jaune, là, qui se voyait bien. Et il m'a pris en bas, il m'a aidé à descendre l'escalier, il m'a mis dans une voiture, il m'a amené à l'avion, à l'aéroport. Et là, devant la porte, derrière la porte, il y avait une jeune fille, avec un fauteuil roulant. Et elle aussi, elle avait son gilet. Alors, elle m'a mis dans le fauteuil, j'ai pris la housse à vêtements sur les genoux ainsi que mon attaché caisse, et puis elle s'est mise à partir. Quelle heure est dans votre avion? Où ça? Oh là là, on n'a pas le temps! Et elle est partie dans le grand hall d'Orly, il y avait un monde comme dans tous les gens. Et elle criait, laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer! Et on est arrivé juste, ça allait fermer. Alors, elle m'a amené jusque dans l'avion, avec le chariot, là, parce que là, il y avait le tunnel, c'était plus facile. Hein. Et puis, tout au long du voyage, on s'est occupé de moi, on a pris soin de moi, c'était formidable. Arrivé à Toulouse-Blagnac, c'est vous qui... Vous avez... Attendez ici, on m'a dit. Alors, j'ai attendu, et on est revenu me chercher avec un fauteuil. Et là, on m'a dit, vous avez une valise? Oui, alors on va aller au tapis. Et quand on arrive au tapis, pas de valise. Alors, je vais aux réclamations, qui n'étaient pas loin, comme d'ici le fond de la salle, là. Elle, la dame me dit, vous êtes monsieur Gisquet? J'ai dit oui. Alors écoutez, votre valise n'est pas là, mais rassurez-vous, elle arrive par l'autre avion qui est dans 20 minutes. Et 20 minutes après, j'avais ma valise. Voyez le petit bonhomme, il avait prié. Seigneur, bénis le voyage du papy pasteur. Fais qu'il n'ait pas de problème. Tous les problèmes se sont arrangés, se sont réglés. C'est beau la prière des enfants, mes amis. Mais il faut que la prière des grands le soit aussi belle. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et ça, moi, j'ai trouvé ça formidable, extraordinaire. À celui-là, je ne l'oublierai pas, je crois, hein, parce que j'oublie beaucoup de choses. Mais c'était tellement sensationnel, cela, que ça vaut la peine. Je rends ce témoignage. Voilà pourquoi j'encourage les enfants à la prière. Et, hein, ça en vaut vraiment la peine. Alléluia. Bon. On continue notre affaire sur la famille. Alors dimanche matin, vous vous en souvenez, on a fait un petit tour d'horizon, l'origine de la famille, etc. Ça va pas? Je tiens pas comme il faut? C'est bon, d'accord. Parce que je les vois, ils me regardent, ils font des signes. Il faut que quand même, je me fasse pas gronder. Alors, on avait parlé sur l'introduction de la famille, la création, les origines. On avait parcouru certaines circonstances, certains événements. Hier après-midi, nous avons parlé du salut des enfants. Et je pense que vous allez en tenir compte, que vous allez en mettre à profit cet enseignement afin de pouvoir amener un jour vos enfants au Seigneur. Et je le souhaite qu'ils y arrivent le plus vite possible. Alléluia. Dieu aime les enfants. Jésus aime les enfants. Et il veut leur faire grâce. Ce soir, on va parler des relations familiales. On va parler de ça. Voilà, n'ayez pas peur. C'est le retour, là, qui fait ça? D'accord, d'accord. Bien. Alors, ça avance là-bas? Vous avez mis l'antenne, s'il vous plaît? Ah! Voilà. Alors la famille, le lieu de vie par excellence. Est-ce que vous êtes d'accord quand je dis que la famille, c'est le lieu de vie par excellence? Vous savez, j'ai connu des familles qui étaient très malheureuses, des gens qui vivaient des conflits terribles. Et lorsque le Seigneur a pu rentrer dans ces couples, le Seigneur a réparé des couples pas possibles. Mercredi soir, nous allons aborder la question du divorce. J'ai dans mon dossier ici des témoignages de couples que le Seigneur a réparés après des années parfois d'échecs. Certains n'étaient que séparés, mais d'autres étaient divorcés. Ils se sont retrouvés, ils se sont remariés, et c'est ça qui est formidable. J'ai eu l'occasion, moi, de faire le remariage d'un couple qui était divorcé, et ça, c'est le bonheur. Le Seigneur fait des choses inouïes, des choses extraordinaires. Voilà pourquoi je dis que dans une famille, quand le Seigneur Jésus a toute la place qu'il doit avoir, qu'il faut lui accorder, eh bien, mes amis, sachez-le, le Seigneur... Bouge pas, ça va aller. Sachez-le que il y a du bonheur, c'est excellent, une famille où le Seigneur Jésus a sa place. Surtout, laissez-le entrer, donnez-lui toute la... Vous connaissez Zachée, vous avez entendu parler de Zachée. On faisait une très mauvaise réputation de l'homme. Je pense que c'était vrai, après tout, on n'en sait rien. On disait que c'était un voleur. Mais est-ce qu'ils en avaient des preuves? Ça, c'est une autre affaire. Ce qui est sûr, c'est que Jésus lui a dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. » Non pas que je passe, mais que je demeure. Car voyez-vous, Zachée s'est empressé. Il a reçu Jésus. Et il a dit, Seigneur, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quand j'entends ça, moi, j'aurais voulu qu'il me vole mes petites économies. Il m'en aurait rendu 4 fois. Voilà. Alors, et ce qui va me rester, je le donnerai aux pauvres. C'est beau cette affaire-là. Alors si Jésus a passé la soirée, je ne sais pas, la journée, il a dû ensuite partir. Mais Jésus est resté par son esprit dans cette maison. Et c'est quelque chose de formidable. Alors laissez entrer Jésus chez vous. Et réalisez tous les jours qu'il est là. Si vous prenez conscience qu'il est là, vous verrez que vous ne direz pas n'importe quoi. Vous ne ferez pas n'importe quoi. Parce que Jésus est là. Vous comprenez ? Et les choses se passent bien différemment. Alors, c'est vrai, avec Jésus, la famille, c'est le lieu de vie par excellence. Alors le couple, ce soir on parle des relations familiales. Hein. Le couple, c'est-à-dire ce papa, cette maman, et avec les enfants qu'il a engendrés, vont vivre dans un environnement composé de personnes diverses. Vous allez me dire, mais non, ils sont que tous les quatre chez eux. C'est vrai, mais quand même, il y a un environnement qu'ils côtoient d'une façon ou d'une autre. Alors les personnes qu'ils côtoient, les unes sont proches par des liens familiaux. C'est les papas, c'est le papa et la maman de chacun des conjoints. C'est également des frères et des sœurs dans la chair, voyez. Les autres sont plus éloignés selon leur parenté, la parenté ou les amitiés. Et dans ce domaine-là, déjà, il y a les frères et sœurs de l'Église. Mais il y a également les gens qui nous entourent. On le verra plus en détail dans un moment, vous allez voir. Nous savons que face à d'éventuels problèmes, il faut sauvegarder l'intimité du couple. J'insiste là-dessus. L'intimité du couple, c'est une force inouïe. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que le mari ait confiance dans sa femme, la femme ait confiance dans le mari. Il faut qu'ils se sentent proches l'un de l'autre. Il faut qu'ils se manifestent toutes sortes d'attention, de tendresse. C'est quelque chose d'important. Alors pour sauvegarder, il y a donc, faire attention, la nécessité de régler un petit peu les relations qu'ils vont avoir avec les autres. Parce que non seulement, peut-être on peut avoir quelques accros entre soi, mari et femme, mais parfois, avec les gens que nous côtoyons, les parents des mariés, les frères et sœurs des mariés, les collègues de travail, les voisins, les voisines, les amis de jeunesse, etc., parfois, ça peut devenir des sujets de complications, et ça, il faut l'éviter à tout prix. Alors, les relations familiales. Il y a les relations donc avec les amis, c'est par elles que nous avons commencé. Quand j'appelle amis, je parle des chrétiens qui nous touchent de près, je parle également des amis qu'on peut avoir d'enfance. Vous avez remarqué, souvent, il y a des amitiés d'enfance qui durent très fort. Il y a des amitiés également d'autres choses, mais il y a également les amitiés, les collègues de travail. Il y a également les voisins, les voisines, et que sais-je encore, hein. Alors ensuite, il y a les relations avec la belle famille. Et oui, un jour ou l'autre, les plus jeunes, pour l'instant, vous deviendrez un beau-père et une belle-mère. Il faut que vous le sachiez. Ça arrive, cette affaire-là. Et ça peut être une bonne chose, comme des complications, on va en parler. Et enfin, on verra des témoignages exemplaires. Parce que la Bible nous donne des témoignages de famille remarquables. Dimanche matin, je vous ai épouvanté, bien sûr, avec les exemples que nous avons parcourus, vous en souvenez, hein. Ils n'étaient pas brillants, ces exemples-là. Mais ce soir, on terminera avec des exemples qui sont bien meilleurs, car il y a de ça aussi dans la Bible. Que Dieu soit béni. Alors une parole de Dieu, et celle-là je crois que vous l'entendrez encore plusieurs fois dans cette étude, puisqu'on l'a entendu hier, Hébreux 13, 4, hein, Dieu dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera, les débauchés et les adultères. Voilà quelque chose d'intéressant, que le mariage soit honoré de tous. Notre génération aujourd'hui est en train de dénigrer le mariage. On le jette aux orties, on n'en veut plus. Les gens disent, mais à quoi ça sert, ça? Qui c'est qui a inventé ça? Alors, chacun dit la sienne, et c'est pas toujours très glorieux. Mais ça, c'est Dieu qui parle, et il nous demande d'honorer le mariage. Que vous soyez croyant ou non croyant, sachez-le, ça s'adresse à vous. Voilà, ça s'adresse à vous. Nous, les croyants, nous sommes en priorité concernés par cette parole, mais les non-croyants aussi. Et certains non-croyants, après avoir entendu que je leur disais que ça leur... Parce qu'il est dit qu'ils soient honorés de tous, qu'ils soient croyants ou non-croyants. Il y a des gens qui ont été interpellés par cette affaire-là. Et non. Alors que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Attention, la sexualité du couple, ce n'est pas un péché. C'est Dieu qui a donné la sexualité. C'est un acte par lequel Dieu ne veut pas seulement procréer, faire des enfants à n'en plus finir, mais particulièrement s'exprimer l'amour dans son apogée, si je puis dire. Donc, il faut quand même que ce ne soit pas des actes de débauche ou des actes d'adultère. C'est ça que vous devez comprendre. C'est le mari se doit à sa femme, la femme se doit à son mari. C'est un texte de la Bible, des Corinthiens, qui nous le dit. Voilà. Alors, pour vous faire comprendre les relations familiales, on va faire paraître un cliché. Vous allez le voir. Est-ce que vous le voyez bien ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ici, il y a une ellipse avec Dieu, l'épouse et l'époux. En bas, il y a une autre ellipse, c'est les enfants. Ici, il y a les parents de l'épouse. Là, il y a les parents de l'époux. Là, il y a les amis de l'époux. Et là, il y a les amis de l'épouse. Hein ? Ah, c'est moi. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, vous avez bien suivi cela ? Voilà, l'épouse, voilà tous les gens qui les entourent, leurs enfants, les parents, les amis, voilà l'entourage dans lequel ils vont évoluer. Mais revenons d'abord ici. Il est question de Dieu avec l'épouse et l'époux. Il est question donc ici d'un couple qui vit avec Dieu. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques, la corde à trois fils ne rompt pas facilement. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Mais c'est ça, Dieu c'est la corde importante, et l'époux et l'épouse. Alors s'ils se sont aimés, et ils ont fait des enfants. Et vous avez vu que la relation avec les enfants, j'ai fait un trait qui est large, qui est épais, qui est fausseau. Pourquoi ? Mais parce que la relation des parents avec les enfants, elle doit être très forte. Sachant qu'un jour ou l'autre, il va quand même y avoir une certaine séparation, on en parlera plus tard. Par contre, les relations avec les parents, des deux côtés, j'ai fait un pointillé, vous avez remarqué ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la relation avec Dieu, elle est intense, avec les enfants, elle est très forte, mais une fois qu'on est marié, eh ben on n'est pas tous les soirs chez papa-maman, on n'en finit pas, on se téléphone trois fois par jour, vous voyez, c'est parce que ça arrive cette affaire-là. Hein ? J'entends des mamans dire, oh, on se téléphone trois fois par jour. Ouh là là, elle me dit... Je ne sais pas comment ça se passe, cette affaire-là. Par contre, les relations avec les amis, vous avez vu, elles sont encore plus distendues. Pourquoi ? Eh bien parce que les copains de la fille, les copains de la maman, les copains de l'époux, ça a une emprise. L'amitié des jeunes, elle est forte. Je ne sais pas si vous avez connu cela. Et, mais il vient un temps quand même où on se marie et il faut faire la différence. Quand on était jeune, on était une bande de jeunes, qu'on s'aimait beaucoup, et on se fréquentait. Bon, un jour, moi et mon épouse, on s'est mariés, mais cette intimité qu'on avait avec eux, de se revoir fréquemment, on a pris de la distance, parce que le climat, la relation n'était plus la même. Alors, vous avez saisi ? Bien. Alors, la relation... Pourquoi ça ne s'est pas corrigé, ça ? Bon, ben, c'est la relation avec les amis. Nous sommes dans le monde et nous ne pouvons pas en sortir. Est-ce que vous avez compris la chose ? Ça veut dire que vous vivez dans le monde, dans cet entourage de personnes, collègues de travail, voisins, voisines, parents, amis et tout cela, et nous ne pouvons pas en sortir. Nous avons des amis de jeunesse, des amis de collège, des collègues de travail, pardon, des amis, des voisins. Et je dis que les ignorer, ce serait une erreur. Et ne glorifierait pas l'Évangile. On ne peut pas casser avec nos amis, parce qu'ils vont vous dire, mais alors qu'est-ce que c'est ce couple de chrétiens ? Car il va falloir tenter de leur communiquer la bonne nouvelle de Jésus, et leur montrer le témoignage d'un couple qui fonctionne. Alors, nous allons un peu plus loin, et là, oui, mais nous sommes exhortés à nous garder du monde. Et oui, nous sommes exhortés à nous garder du monde. Je crois que Jésus a fait une belle prière à ce sujet-là. Je suppose que vous la connaissez, mais on va la voir. Regardez Jean 17, 14, 15. « Je leur ai donné ta parole, dit Jésus. » Il s'adresse à son Père. Vous savez qu'elle est belle, cette prière de Jean 17. Si vous ne l'avez jamais lue, il faut la lire. Et quand vous l'aurez lue, vous la relirez de temps à autre. Vous verrez les formidables. Et Jésus dit ceci à son Père. « Je leur ai donné ta parole. » Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, dans nos relations, le Seigneur ne nous demande pas de nous enlever, de garder une certaine mesure, une certaine forme de relation. Et le Seigneur Jésus ajoute, « Mais je te prie, Père, de les préserver du mal. » Il y a des croyants qui pensent qu'une fois qu'ils sont convertis, ils ont peur de fréquenter certaines personnes, de peur que je ne sais quoi, alors que c'est totalement faux. Le Seigneur Jésus a prié pour que nous soyons préservés du mal. Et au contraire, après avoir peut-être dans le passé fait avec eux les mêmes sottises, les mêmes erreurs, mais maintenant vous êtes croyants, eh bien, tout va changer et vous allez pouvoir leur témoigner d'un exemple de vie conforme à l'Évangile. Les relations fraternelles. Voilà, c'est les relations entre chrétiens. Est-ce que vous vous aimez entre chrétiens à Annecy ? Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, vous savez, à Montauban, c'est pareil. Et dans toutes les églises, c'est pareil. Il paraît que par-ci, par-là, parfois, il y a quelqu'un qui boude dans son coin, qui a je ne sais pas quelle déception, mais ça, c'est une erreur. Alors, l'apôtre Pierre dit ceci. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. » Voilà pourquoi nous sommes toujours avec les textes de la Bible, parce que les textes de la Bible, c'est une parole qui est permanente. Regardez ce qu'il dit. Il faut avoir, d'abord, en acceptant le Christ, on a purifié nos âmes, et nous avons décidé d'obéir à la vérité. Et l'Écriture de dire ceci, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est le travail de nos relations fraternelles. Et ça, on se retrouve à l'Église. Certaines ne se retrouvent que le dimanche, mais d'autres se retrouvent aux différentes réunions de la semaine. On est des frères et des sœurs dans la foi. Et c'est quelque chose de magnifique, parce qu'on a découvert toute une famille. L'Église, c'est une famille. Nous sommes membres les uns des autres. Il nous est dit que nous devons avoir un amour fraternel sincère, c'est-à-dire sans aucun défaut. C'est quelque chose d'important. Et nous devons nous aimer ardemment les uns les autres. Est-ce à dire que parce qu'on va s'aimer ardemment, je vais être tous les soirs chez vous, je vais y passer 8 jours, et au bout de 8 jours, je me trouve tellement bien que j'y reste 15 jours de plus. Et au bout de 15 jours, je me suis trouvé tellement bien que je remets ça pour un mois. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors à ce sujet-là, dans le livre des Proverbes, je crois que je vous donne la réponse, Proverbe 25, verset 17, il est écrit ceci, écoutez-le bien. « Ne mets pas, mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il te haïsse. » Eh oui, c'est bien d'avoir cet amour fraternel, mais attention, il ne faut pas que ça devienne une connexion parce que ça pose des problèmes. Donc vous l'avez compris, des relations avec les gens du monde, juste ce qu'il faut. Les relations avec les frères et sœurs, elles se font avec amour, d'accord, mais délicatement. Pourquoi? Parce que quand on est très près les uns des autres, il arrive parfois des accidents qu'on n'avait pas prévus. Il y a parfois des transferts de sentiments qui se font. Ces couples qui sont toujours ensemble, ils partent en vacances ensemble, on va faire les courses ensemble, et on n'en finit pas, et il y a des sentiments qui deviennent fragiles avec le conjoint, et qui amènent l'un à regarder à l'autre, Et il y a eu des catastrophes pas possibles, même chez des croyants. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver, mais quand j'ai appris d'un couple que j'ai connu, et qui faisait un groupe, c'était un groupe de chant, ils étaient quatre, hein. Et puis il y a eu une inversion des rôles, je vois pas si, j'espère que vous voyez ce que je veux vous dire. Et ça a fait une catastrophe, et ça c'est bien dommage. Alors ensuite, on a vu qu'il y avait les parents des époux. On appelle ça des belles-mères et des beaux-pères. C'est pas un péché d'être belle-mère ou beau-père. Est-ce que vous le savez? Ça peut être une belle vocation. Eh oui. La vérité, une vérité à ne pas perdre de vue. Oui, j'avais oublié un petit peu ce détail, c'est vrai, excusez-moi, mais on s'y arrête maintenant. Une vérité à ne pas perdre de vue. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On a parlé là-dessus hier, j'espère que vous en souvenez bien. On ne va pas s'y étendre, mais c'est clair. Il va y avoir un transfert d'affection, c'est-à-dire après avoir aimé son père et sa mère, eh bien on va surtout s'attacher à sa femme, à son mari, pour devenir une seule chair. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne nos parents, bien loin s'en faut. Le rôle des enfants envers les parents, c'est-à-dire quand je parle des enfants, ici je parle du couple marié, du papa et de la maman. Ils ont un rôle envers leurs parents. Envers leurs parents, et le voici. Éphésiens 6, 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que vous voulez être heureux? À Bordeaux, pendant un temps, nous avons eu un foyer. On récupérait les jeunes de la rue. Et certains qui arrivaient tout cassés. En arrivant, on leur faisait connaître notre projet avec eux. C'est qu'on pouvait leur donner à manger. On pouvait les vêtir, on pouvait les loger, mais les problèmes les plus intimes, ce n'était pas de notre ressort, c'était le ressort du Seigneur. Alors il faut savoir que tous les matins, il y avait un petit culte de 30 minutes, et que les jours de réunion, ils devaient accompagner l'équipe à l'église. Alors certains, quand ils entendaient parler du programme, ils partaient avec le sandwich, on ne les revoyait plus. Ça me dit qu'il y en avait d'autres. Ils voulaient essayer. On leur disait, mais essaye, tu vois, essaye un jour, deux jours, une semaine, tu verras. Et certains ont accepté. Alors parmi eux, il y en avait beaucoup qui étaient en rupture dramatique avec les parents. Mais des ruptures terribles. Les parents les avaient jetés à la rue, ou bien c'est eux qui avaient fui, c'était des choses comme ça. Alors on leur donnait ce verset, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Plusieurs d'entre eux ont reconnu ce verset et ils ont dit, mais j'ai besoin d'être aidé. Et nous avons eu le bonheur de pouvoir nous-mêmes faire la relation entre eux et les parents qui étaient perdus de vue. Il y a eu des réconciliations parce que ces garçons ou filles, ils ont compris qu'il fallait honorer papa et maman, même ceux qui avaient fait les pires choses, et ça a été une bénédiction. Alléluia. Et mes amis, dans un couple, ne l'oubliez jamais, il faut aimer son père et sa mère, il faut aimer son beau-père et sa belle-mère. Et dans ce niveau-là, parfois, la relation est plus difficile. Il s'est passé différentes choses qui font que, eh bien, les relations ne sont pas très fortes entre le beau-père et la belle-mère. Et pourtant, il faut honorer son père. Oui, mais si vous saviez ce qu'il m'a fait. Je ne veux pas savoir ce qu'il a fait. Je sais simplement une chose, c'est que Dieu dit qu'il faut honorer. Il ne s'agit pas d'approuver toutes les mauvaises choses que des beaux-parents ont pu faire, pas du tout. Mais les honorer, les respecter. Parce qu'ils sont les parents du conjoint, ils sont les grands-parents des enfants, des petits-enfants, ne l'oubliez jamais, et c'est une bonne chose. Alors le rôle des beaux-parents. Voilà, moi je suis beau-père, et vous? Vous n'êtes pas encore beau-père? Vous êtes belle-mère? Il y a des beaux-pères et des belles-mères ici? Les autres, patientez, ça viendra. Vous inquiétez pas. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, accepter et aimer le conjoint de leur enfant. Voilà, aujourd'hui, les enfants ne demandent plus l'avis des parents pour choisir l'épouse ou l'époux. Tout d'un coup, ils nous déclarent que... Il faut faire avec. Alors, certains parents, ben, ils sont heureux, ils voient ça. D'autres, alors qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il? Et là, ça pose des questions. Et là, ça pose... Ah bon? Et c'est quelqu'un de bien. Et ils veulent savoir si c'est un prince charmant ou si c'est qui encore. C'est pas facile. Je ne sais pas comment vous vivez. Moi, je vais vous parler de mes petits-enfants. L'aîné de mes petits-enfants, il a marié une berlinoise. Et il habite à Berlin. Voilà. Et les petits-enfants, ou comme trois pommes, ils parlent aussi bien le français que l'allemand. Et ça, c'est formidable. Et ils sont heureux. Son frère, il a marié une franco-marocaine. Vous n'avez qu'à voir. Il y a une de mes petites filles qui est à Aix-les-Bains. Elle a marié un Guadeloupéen. Et sa sœur, qui est à Montpellier, elle a marié un franco-espagnol. Vous avez un petit peu cette famille, on est comme ça chez nous. Et mais rassurez-vous, ils sont super, ils sont tous gentils. Mais il y a des parents qui, ça ne leur plaît pas. Entre les uns qui sont racistes, même parfois chez les chrétiens, et ils n'acceptent pas. Entre les autres qui sont un petit peu collémontés et qui voudraient que leur fille épouse je ne sais quel prince charmant, qui devienne un grand savant, un grand député, peut-être un ministre ou un président de la République, j'en sais rien. Oui, ça pose des problèmes. Oui, mais j'aurais aimé qu'elle choisisse quelqu'un d'autre. Laisse-la. Mais de toute façon, aujourd'hui, ce n'est plus l'heure où les parents préparent les mariages, c'est fini, c'est réglé. Ça ne veut pas dire qu'on ne dise rien. On peut donner un avis. Mais attention, laissez les enfants, il faudra les accepter. Voilà. Et si vous les acceptez, vous ferez leur bonheur. Vous ferez le bonheur du mari ou de l'épouse. Et vous ferez votre bonheur. Parce que c'est quand on aime qu'on est heureux. Après, autrement, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que doivent faire les bons parents? D'abord, il doit être de bons conseils. Eh oui. Les parents, on peut conseiller nos enfants, mais attention, essayez de voir que de ne pas trop contrarier leur choix. Conseiller la jeune femme dans son rôle d'épouse. Parce que souvent, les jeunes qui se marient, ils ne savent pas très bien ce que c'est. Ils rêvent avec tous ces films à l'eau de rose et tous ces trucs un petit peu très, très particuliers. Ils pensent que c'est ça la vie. Après, quand ils le découvrent, ils sont surpris, moi je vous le dis. Il vaut mieux quand même les avertir. Il faut conseiller également le mari dans son rôle d'époux. Parce que souvent, cette jeune femme, elle était jeune fille, et maman faisait tout à la maison, et elle ne faisait pas grand-chose pour ne pas dire rien. Ensuite, le jeune mari, lui, c'est pareil, à la maison, maman faisait tout, elle ramassait tout, mais de l'ordre entre... Mais oui, maman, tu le fais mieux que moi. Et alors, quand ils se trouvent tous les deux, où ils ne connaissent pas la vraie vie de couple, pourquoi? Mais parce que là-bas, chez eux, ils mettaient les pieds sous la table. Ils rentraient dans le lit qui était correctement rangé. C'est pas eux qui ramassaient toutes les choses qu'ils faisaient traîner. Là, il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent. Parce qu'au bout de quelques jours, parfois, la maison risque d'être en désordre. Et c'est là que les parents doivent être de bons conseils. Il ne s'agit pas seulement de dire à la fille, elle va tout faire. Non, le mari doit faire. C'est les deux qui vont faire. Il faut être des messagers et des conseillers de paix dans les conflits. Parce que souvent, jeune marié, il y a quelques grippages qui se produisent. Et c'est là qu'il faut être des messagers de paix. Il ne s'agit pas de prendre parti pour son garçon, parti pour sa fille, hein, en disant que c'est l'autre qui a tous les torts. Il faut savoir un petit peu être des messagers de paix. C'est quelque chose que nous devons faire. Le rôle des beaux-parents, encore une fois. Dans l'épître de Paul, de Tite, il est écrit ceci. « Dis ces choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Quand je lis ce verset, je découvre que dans la Bible, il y a une doctrine de la famille. Regardez bien, il est question de la saine doctrine. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Regardez plutôt. Tite, verset 1, nous sommes au verset 2. Les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi et dans l'amour. Ça me concerne, moi. Vous êtes encore des jeunes, vous le comprenez. mais vous allez vieillir. Et croyez-moi, ça arrive plutôt que ce que vous pensez, je vous préviens, ça va vite quand vous commencez. Alors il faut être sobre, il faut être honnête, modéré et sain dans la foi. Vous avez remarqué qu'il est une foi saine, hein, non pas sainte, mais une foi saine. Et également dans l'amour, parce qu'on peut avoir aimé sans intelligence. Et aimer, préférer l'un ou préférer l'autre, et c'est là qu'ils vont faire attention. Et ici, les questions, chapitre 3, on est au verset 3, et on poursuit notre texte. Il est question des femmes âgées. Dites-moi, les dames, à quel âge on devient âgé? Vous n'avez pas réfléchi à la chose? Et dépêchez-vous d'y réfléchir. Alors regardez un petit peu. Les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Je pense que c'est ça. N'être ni médisante, ni adonnée aux excès de vin. Et oui, dans ce pays, là où était Tite, les vins méditerranéens, ils chauffent vite et il se produit des choses. Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc ces femmes âgées, elles avaient marié leurs filles. Et je crains que quand on a marié ses enfants, on commence à devenir vieux. Oula, je m'attire des ennuis là ce soir. Je m'attire des ennuis. Et oui, elles doivent donner de bonnes instructions à leurs dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Mais pourtant, quand elles se sont mariées, ces jeunes femmes, elles s'aimaient. Ils s'aimaient avec son mari. C'était l'amour fou, ce qui les a amenés à faire des enfants. Bien entendu, quand on s'aime beaucoup, on arrive à faire des enfants. Mais voilà, le mari, au bout de quelque temps, il n'est plus ce prince charmant. Peut-être il ne donne pas un bon coup de main à la maison. Les enfants, ça devient turbulent. Surtout ceux d'aujourd'hui, plus que jamais. Et la maman, elle n'en peut plus. Mon mari, j'en peux plus. Il est ceci, il est cela. Mes enfants, je n'en suis pas maître. Alors, les femmes âgées, apprenez à leur donner de bons conseils aux jeunes femmes. C'est là quelque chose d'important. Et nous, les vieillards, nous avons aussi la même tâche que nous devons accomplir. Que Dieu soit béni. À être retenu, dire encore aux jeunes femmes, être retenue chaste, occupée aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, il est donné aux jeunes femmes d'avoir une conduite de vie qui est formidable, attachée, occupée aux soins domestiques. Aujourd'hui, les soins domestiques, j'ai entendu moi des jeunes femmes, moi j'ai pris du travail parce que occuper les soins domestiques, c'est pas valorisant. Pourtant, quand on rentre dans une maison qui est bien arrangée, moi je vous dis que ça valorise la personne qui l'a bien arrangée. Quand j'étais avec mon épouse, de temps en temps je lui donnais un coup de main, je faisais ceci, je faisais cela, et puis elle repassait toujours derrière. Et quand elle mettait les objets à leur place, j'étais là tout ébahi, j'ai dit quand même c'est mieux ce qu'elle a fait. Dieu s'y est prise mieux que toi. Et oui, cher ami, et oui. Vous savez, les dames, vous savez, comment dirais-je, un doigté pour arranger les choses, c'est quelque chose de formidable. Et l'Écriture nous dit, soumise à leur mari, on parlera mercredi soir de la soumission au mari, parce que là il y a beaucoup de choses à dire. Et vous avez entendu, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Sachez qu'un couple de croyants qui marche mal, ça fait tort à la parole de Dieu, ça fait tort à Dieu. Ça fait tort à l'Église et ça fait tort à la famille elle-même, bien entendu. Alors, le rôle des grands-parents, ça c'est les papis et les mamies. Il nous est dit qu'il faut qu'ils apprennent à consoler, à gâter les petits-enfants sans nuire à leur bonne réputation. Je crois que c'est un certain Victor Hugo qui a écrit « L'art d'être grand-père ». Je ne sais pas s'il y a des littéraires au milieu de nous pour approuver ce que je dis ou alors pour le contredire. Mais il y a un fameux livre comme ça, « L'art d'être grand-père ». Ce n'est pas le livre excellent pour élever les petits-enfants, je vous préviens. Hein. Il y a quand même des choses, ce n'est pas sale, pas du tout, mais ce n'est pas ça. Le meilleur livre pour éduquer les enfants, c'est la Bible. Voilà. Donc il faut consoler les enfants. parce que les petits-enfants, ils viennent souvent dans les bras du papy ou de la mamie, plus dans les bras de mamie que de papy, bien c'est ça. Et il faut les gâter. Attention, les gâter, mais pas les pourrir. Hein ? Comprenez ce que je veux dire. Parce que, et puis, sans nuire à leur bonne éducation. Car souvent, les papys et les mamies font rentrer dans l'esprit des enfants des valeurs que les parents n'ont pas pu y faire rentrer. Non pas qu'ils n'ont pas voulu, mais qu'ils n'ont pas pu. Être pédagogue, éduquer dans la justice, la piété, la foi, les valeurs morales et spirituelles. Eh oui, les grands-parents, ils doivent élever les petits-enfants et les conduire, les éduquer, les conduire dans la justice, la piété, la foi, les valeurs morales et spirituelles. C'est quelque chose d'important. Il faut également qu'ils soient des confidents, des complices, mais en toute justice. Hein. Parce que les enfants, quand ils ont des gros coups durs, les petits-enfants, ah, on va voir mamie, elle va nous dire quelque chose. Hein. Parce qu'on n'ose pas le dire à papa, à maman, on a fait des grosses bêtises, on veut bien le dire à mamie ou à papy, c'est comme ça. Alors il faut être des confidents, des complices, mais attention, il ne faut pas quand même les abîmer et les perdre, ce serait vraiment dommage. Alors une erreur à éviter, c'est une méchante erreur. Voilà, un roi, un 6, il est question d'un père qui n'avait fait de sa vie un reproche à son fils en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Qui c'est ce père? Je vous donne son nom, c'est David. Et son fils, c'est un certain Adonijah. C'était un mauvais sujet. Pourquoi? Parce que ni son père, ni son grand-père, ni la mamie, ni la maman ne lui avaient fait aucun reproche. On rejoint un petit peu l'étude d'hier après-midi. Vous voyez, ça vaut la peine de faire des reproches parce que ce fameux Adonijah, il a voulu prendre le trône de David, ne l'oubliez pas, ça a été une véritable catastrophe. Alors l'exemple de Job, nous passons maintenant à des exemples positifs. Vous avez entendu parler de Job? Vous connaissez ce monsieur? Ce monsieur, qui était-il? Il était immensément riche. Il avait je ne sais combien d'enfants et des filles. Et il y avait une mentalité, une ambiance de famille formidable. C'est qu'ils étaient très liés, ces garçons et ces filles. Ils avaient coutume de faire non pas un repas, mais de faire des festins. Et les festins de l'époque, ce n'était pas un repas qui commençait à 13h de l'après-midi jusqu'à 18h le soir. Pas du tout, ça durait plusieurs jours. Voilà. Ils se recevaient alors. Chose curieuse, Job n'y allait jamais. Pourtant, ils avaient l'air bien, ces jeunes gens. Mais quand ils avaient fini leur festin, eh bien Job, il les faisait venir. Et il les appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin, offrait pour chacun d'eux un holocauste, un sacrifice, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait la coutume d'agir. Et oui, ce vieux Job, il se posait des questions parce que lui n'y allait pas. Il devait raconter qu'ils avaient passé des bons moments, de ces rencontres de famille, ces repas de famille qui durent longtemps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on commence à chanter, on commence à boire et il y a toujours un petit peu des... Et Job avait peur de ce qui se passait. Et vous, les parents et les grands-parents, si vous avez vos enfants, vous vous dites, voilà, c'est samedi, c'est dimanche, mon Dieu, où est mon fils, où est ma fille, regarde l'heure qu'il est, il n'est pas rentré, et que ça commence à se tourmenter dans l'esprit. Faites comme Job, regardez bien. Il se levait, d'abord il les appelait et il les sanctifiait. C'est-à-dire, il leur donnait des conseils. Il travaillait à les rendre saints. Puis il offrait pour eux un sacrifice, pour chacun d'eux, un holocauste. Et nous avons pour offrir à Dieu l'holocauste par excellence, c'est le sacrifice de Jésus. Et c'est ce qu'il faut faire. Mon Dieu Seigneur, je ne sais pas ce que font mes enfants, je ne sais pas ce qu'ils font, mais je t'en supplie, pardonne-les, fais grâce et miséricorde, voilà ce qu'il faut faire. Un autre exemple, elle s'appelait Naomi. Elle avait un époux qui s'appelait Élimélec. Elle avait deux fils, Maclon et Kiljon. C'était une famille aisée, il y avait de l'argent. Et là en Israël, c'était un temps de famine. Alors ils ont dit, puisqu'au pays de Moab, chez les païens, il y a de quoi manger, eh bien on va fermer la maison et on y va. On y va pour un séjour, au départ. Mais arrivés là-bas, ils se sont trouvés tellement bien qu'ils ont fixé leur demeure. Ils n'ont plus pensé à revenir au pays d'Israël. Et là, il s'est passé quelque chose. Les filles ont grandi, ils se sont mariés chacun avec une païenne, et là, la catastrophe a commencé à se manifester. Élimélec, le père, meurt. Maclon, Kiljon, meurt. Et Naomi s'est trouvée toute seule, avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Elle était là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme perd le mari, les fils. Si ça avait été une femme peu spirituelle, elle aurait pu s'énerver. Elle aurait dit, c'est la faute de ses filles qui ont marié les enfants. Vous voyez, elle aurait pu s'énerver. C'est pas comme ça qu'elle a agi. Au contraire, elle a dit à ses filles de repartir. Allez, retournez chez votre père et trouvez un mari dans lequel vous serez heureuse. Et elle a ajouté que l'Éternel use de bonté envers nous et envers vous et qu'il vous donne un mari. Or, Orpa est partie, mais Ruth, elle a dit qu'elle s'attachait à sa belle-mère. Elle dit, là où tu iras, j'irai. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce qu'a dit Ruth. Et alors, arrivé au pays, vous voyez, on est passé au chapitre, Ruth a fait la découverte, une découverte formidable. C'est qu'elle a découvert un prince charmant, un certain Boaz, qui a vu cette fille vertueuse, qui s'est tenue d'une manière impeccable. Il a dit, tu ne courais pas les jeunes gens. Et il l'a épousée. Et c'était quelque chose de magnifique. Et alors, cette fameuse Ruth a donné des conseils. Naomi a donné des conseils à Ruth pour faire comment il fallait qu'elle fasse pour qu'elle soit heureuse. Elle dit, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureux. Ça, c'est d'une belle-mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais assurer ton repos. Elle l'aimait. Voilà. Et alors, bien sûr, elle s'est mariée et elle a fait un enfant. Ruth a fait un enfant. Et cet enfant, les gens lui ont dit, tu vois cet enfant, restaurera ton âme. Car la belle-fille, ta belle-fille qui t'aime, a enfanté elle qui vaut mieux pour toi que 10 fils. Et oui, cette femme était une femme bénie. Alléluia. Regardez deux exemples. Loïs et Eunice. Voilà, j'ai une arrière-petite fille qui s'appelle Loïs. Et elle est fière de s'appeler Loïs. Alors, qui c'est cette Loïs et cette Eunice? Vous n'avez pas lu ça dans la Bible quelque part? Mais vous lisez la Bible ou pas? Ou vous arrêtez sur quel verset? Regardez bien. Ça, c'est une mamie. Et ça, c'est une maman. Et c'était la mamie et la maman d'un certain Timothée. Et alors, Paul écrit à Timothée, il lui dit, je garde le souvenir de ta foi sincère qui est en toi. Et oui, Timothée, la foi sincère était dans son cœur. Et il ajoute, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. Eh bien oui, cette maman, cette mamie, cette maman, ont communiqué au garçon Timothée la foi. Ça vaut la peine des bonnes relations dans la famille, mes amis. Ça vaut la peine de vivre cela, et j'espère que vous saurez suivre le même chemin. Alors c'est la conclusion qui vient maintenant. Pour de bonnes relations familiales, il est souhaitable que plusieurs choses. La première, la voici. Que tous les enfants chrétiens soient également exemplaires. Quand j'emploie les enfants dont il est question ici, c'est le papa et la maman du couple. Ah mais attends, oui, moi j'ai corrigé ma clé USB, mais c'est pas corrigé là-bas. Oui, d'accord. Il faut que tous les enfants chrétiens, voilà, vous voyez une répétition. Alors, ici, il faut que les parents chrétiens soient exemplaires. Il faut que les enfants, le papa et la maman chrétienne, soient aussi exemplaires. Et il faut que tous les beaux-parents et les grands-parents chrétiens soient des personnes exemplaires, mènent une foi nette, propre, correcte, telle que le Seigneur le veut. Alors, mes amis, en terminant, qu'est-ce que je peux vous dire? Simplement ceci. L'amour de chaque membre de la famille, sa piété, sa consécration, seront le gage de la réussite familiale. Permettez que je relise. Regardez. Chaque membre de la famille, l'amour de chaque membre de la famille, la piété de chaque membre de cette famille, la consécration de chaque membre seront le gage de la réussite familiale. Voilà. Alors, dans son amour, le Seigneur nous amène vers la fin. C'était la famille, les relations familiales. Et je vous dis de tout mon cœur, soyez bénis.
Voilà, bien, on va rendre grâce à Dieu. Merci d'être venu ce soir. Et je vous rappelle que demain soir à 20h, il y aura encore un développement sur ce thème de la famille. Et nous vous invitons à y participer pour recevoir tous ces conseils qui sont tirés de la parole de Dieu. Hein, parce que...
Alors demain soir... Les conflits du couple et la solution. Alors bien sûr, je sais que vous n'avez pas de conflit chez vous ici, mais si ça devait arriver, ça vous permettra de savoir comment il faut en sortir. Et puis mercredi soir, le divorce et le remariage. Alors j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas à inviter des non-croyants. Parce que j'ai remarqué dans beaucoup d'endroits où on a eu soin de le dire aux chrétiens, qu'ils ont dit à des païens, des gens du tout, de venir parce qu'il y avait des messages sur la famille, et bien de venir. Et surtout, pour mercredi soir, sur le divorce, ça intéresse une foule de gens hors de l'église.